Frères et sœurs, la grâce et la paix nous sont données en surabondance de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Alors faisons bon accueil à cette grâce et réjouissons-nous par le chant du premier répond indiqué dans le livret liturgique qui figure au début de notre psautier français. Levons-nous pour chanter Dieu.
Alors les psaumes nous appellent à nous tourner vers Dieu avec reconnaissance dans la louange, comme ce psaume 81 de la Bible que va nous lire Mao.
Criez de joie pour Dieu notre force, acclamez le Dieu de Jacob, jouez musique, frappez le tambourin, la harpe et la cithare mélodieuse, sonnez du cor pour l'an nouveau quand revient le jour de la fête. J'entends des mots qui m'étaient inconnus. J'ai ôté le poids qui chargeait ses épaules, ses mains ont déposé mon fardeau, elles ont brisé nos chaînes. Criez de joie pour Dieu, il est notre force, il est notre force. Acclamez le Dieu de génération en génération.
Merci beaucoup Mao, et nous poursuivons donc dans la louange avec ce psaume 81 que nous venons d'entendre si bien lu. Et nous allons chanter, donc vous prenez dans le psautier français, que nos cris joyeux, nos cris d'allégresse jaillissent vers Dieu. Et nous chanterons les strophes impaires, 1, 3, 5 et 7. Alors vous pouvez prendre place pour entendre quelle est la volonté de Dieu qu'il nous propose pour vivre. Alors c'est Diane qui va nous lire ce texte de l'apôtre Paul.
L'apôtre Paul nous propose de suivre le chemin de l'évangile du Christ avec ce poème. Voici la voie par excellence. L'amour prend patience, l'amour rend service. Il ne jalouse pas. Il ne vante pas, il ne gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de moche. Il ne cherche pas son intérêt. Il n'entretient pas de rancune. Il ne s'irrite pas. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Mais l'amour trouve sa joie dans la fidélité. Il s'excuse de tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Recherchez-le.
Merci beaucoup. Et maintenant, c'est Capucine qui va nous guider dans une prière de repentance.
Face à l'idéal infini de l'amour, nous nous tournons vers Dieu pour lui demander son pardon et sur son aide. Seigneur, trop souvent, notre cœur, notre esprit, notre intelligence sont durs comme de la pierre. Chaque fois que nous ouvrons notre Bible pour nous mettre à l'écoute de ta parole, qu'elle soit comme de l'eau vive qui attendrisse notre cœur de pierre, chaque fois que nous pensons à toi, pour nous ouvrir par la prière à ton souffle, qu'il nous donne un cœur de chair, qui aime enfin vraiment, et qui nous fasse sentir combien tu nous aimes. Amen.
Merci beaucoup. Mais nous pouvons recevoir ensemble la certitude donc du pardon de Dieu, de sa grâce pour chacune et chacun d'entre nous. Donc maintenant, c'est Éléonore qui va nous dire le pardon de Dieu.
Le Christ nous a donné la certitude de la bienveillance de Dieu pour nous. En effet, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, afin de grâce à lui nous ayons confiance en toi et que nous ayons une vie plus forte que tous. Tes fautes sont pardonnées, nous dit Jésus. Toi, ta foi t'a sauvé. N'avance en paix.
Nous chantons à Dieu notre reconnaissance. Merci beaucoup, Éléonore. Et maintenant, c'est Toscane qui va nous guider donc dans cette confession de foi qui est, depuis déjà quelques générations, celle de l'oratoire.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. L'Éternel règne, il est esprit, il est amour. L'amour de Dieu envers nous s'est révélé en ceci. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est le chemin, la vérité et la vie. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. À ceci, nous reconnaîtrons que nous sommes ses disciples, si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Je crois au Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. Je crois au royaume de Dieu, à l'amour plus fort que la mort. Je crois à la vie éternelle, la victoire par laquelle tout le monde est vaincu. C'est notre foi. Seigneur, augmente-nous la foi.
Merci beaucoup.
Merci. Voilà, frères et sœurs, nous allons maintenant reconnaître et installer le ministère du Conseil presbytéral de l'Église de l'Oratoire. Dans la liturgie de l'Église réformée de France, maintenant devenue Église protestante unie de France, et dans l'attente de sa nouvelle déclaration à laquelle nous travaillons, il y a eu la confession de foi de l'oratoire, donc nous n'allons pas en donner une autre, et c'est une confession de foi qui est bien sûr tout à fait utilisée dans toute notre union d'église. Avant l'appel des conseillers et la prière, leurs engagements, il y a un temps de louange, un temps significatif pour dire à Dieu merci, pour son appel, pour le fait que des hommes et des femmes, aujourd'hui, dans notre monde et dans notre Église, s'engagent à son service, au service de l'Évangile. Nous te louons, nous te bénissons, Dieu notre Père. Dans ton amour libérateur, tu nous appelles, malgré notre faiblesse, à être tes serviteurs. Porteur de lumière et d'espérance, solidaire de toute l'humanité. Nous te louons, nous te bénissons, Seigneur Jésus-Christ. Tu es venu en serviteur, réconcilier tout homme avec ton Père. Tu as donné ta vie pour nous rendre notre humanité véritable et notre dignité d'enfant de Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, Esprit Saint. Tu suscites l'Église, tu la rassembles pour l'adoration, tu l'envoies dans le monde, tu lui donnes la force de vivre sa foi et d'en témoigner. Nous te louons, nous te bénissons, Dieu trois fois saint, pour annoncer l'Évangile, pour servir les hommes. Tu fais de nous les ouvriers de ton royaume, pour construire la communauté, pour aider chacun, chacune, à prendre part à sa mission, tu donnes à ton Église les serviteurs dont elle a besoin. Amen. À vous asseoir. Nous allons donc maintenant appeler les conseillers presbytéraux pour entendre les engagements qu'ils vont prendre ou renouveler pour certains d'entre eux. Et nous prierons toute la communauté pour cette charge et cette responsabilité. Conseil presbytéral, dans notre Église, c'est le gouvernement de la vie de l'Église. Ouais, c'est comme ça que c'est écrit dans nos statuts, confessions, constitutions, etc. Mais c'est aussi un ministère collégial de l'Union. Il y a donc ces deux aspects depuis très longtemps. À la fois le gouvernement de la vie de l'Église locale, ici à l'oratoire, et aussi un ministère collégial de l'Union. Ça veut dire au nom de l'Union, Église protestante unie de France, et collégiale, bien sûr, tous les mots, et ministère qui veut dire service. Tous les mots ont bien sûr un sens. Alors j'invite maintenant à venir faire un demi-cercle les conseillers presbytéraux qui ont été élus par l'Assemblée Générale du 20 mars 2016, Daniel Aubi, Bénédicte Boissonnat, Francine Bronstein, Jean-Luc Buisson est excusé, est à l'étranger, Christine Demess, André Ducrot, Gaspard Durleman, Laurence Gilquin, Frédéric Harry, Daniel Jouanneau, Juliette Lauvergeat, Samuel Le Goff, Samuel McCain, Alain Moineau, Isabelle Santesteban, Laurence Tardy, Marc Verstraat. Et puis j'appelle aussi les deux pasteurs, Marc Pernaud et Jean Soudi, qui ne sont pas élus par l'Assemblée, mais qui sont membres comme pasteurs, comme ministres du Conseil presbytéral. Le Conseil a confié la charge de président à André Ducrot, de vice-président à Alain Moineau, de trésorier à Francine Bronstein, de trésorier adjointe à Christine Demess, secrétaire à Isabelle Santesteban et secrétaire adjointe à Juliette Lauvergeat. Frères et sœurs de l'Église protestante unie de France à l'oratoire, vous exercerez le ministère qui vous est confié en accord avec la foi de notre Église et selon les règles de sa vie commune. Dans la soumission mutuelle, vous travaillerez fraternellement avec tous ceux qui ont part à l'œuvre du Seigneur. Vous serez responsables de vos frères et de vos sœurs. Vous les encouragerez par votre vie. Vous garderez de tout ce qui pourrait faire tomber les plus petits. Vous serez discrets dans vos propos. Vous serez vigilants dans la prière, persévérant dans l'écoute de la parole, fidèle au repas du Seigneur, assidu aux assemblées de l'Église. Vous poursuivrez votre formation spirituelle, théologique, humaine. Ainsi, vous aurez à cœur de renouveler l'élan de votre ministère. Est-ce bien là ce que vous voulez ? Vous qui êtes appelés à former le conseil presbytéral de cette Église, vous porterez ensemble la responsabilité spirituelle et matérielle de la communauté. Vous discernerez, reconnaîtrez et coordonnerez les ministères que Dieu donne à cette Église pour qu'elle grandisse dans l'amour et soit au sein du monde messagère de l'Évangile. Vous serez solidaire des décisions que prendra votre conseil et vous préparerez et appliquerez les décisions des synodes. Est-ce bien là ce que vous voulez ? Frères et sœurs, vous venez de recevoir les engagements des membres du Conseil presbytéral. Ensemble, et je m'adresse à toute l'Assemblée, nous sommes appelés à travailler pour Dieu. Nous prierons pour nos frères et nos sœurs et les soutiendrons. Et je vous invite à manifester cela en vous levant et en vous engageant également à haute voix. Oui, nous le voulons. Jésus-Christ est le Seigneur, qui nous soit en aide. Oui, voulons. Jésus-Christ est le Seigneur, qui nous soit en aide. J'invite maintenant à la prière avec le geste de l'imposition des mains, qui est un geste, alors je vais d'abord dire, c'est donc Philippe Godin, ancien président du Conseil presbytéral, qui viendra pour l'imposition des mains, ainsi qu'Antoine Durleman, ancien du Conseil, membre du Conseil de la Fédération protestante, membre du Conseil d'action sociale protestant. Je vous invite à nous rejoindre. Ce geste d'imposition des mains est un geste de bénédiction, ça veut dire de reconnaissance et d'envoi. Nous t'en prions, Dieu notre Père, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Accorde et renouvelle ton Saint-Esprit à nos frères et à nos sœurs que nous recevons et établissons comme conseillers presbytéraux dans ton Église. Donne à ce conseil d'accomplir humblement et fidèlement le service auquel tu l'appelles pour qu'il garde ton peuple dans la communion fraternelle, l'unité du corps du Christ et l'accomplissement de sa mission. Amen. Église du Christ, réjouis-toi pour les ministres que le Seigneur te donne. Et vous, conseil presbytéral, vous n'êtes pas seul. Et même si la charge peut être lourde parfois, vous savez que vous êtes accompagnés. Réjouissez-vous d'avoir cette part particulière d'annonce de l'Évangile. Le Seigneur vous bénit, vous garde. Amen. Un temps d'accolade fraternelle au nom de toute l'Assemblée.
Frères et sœurs, c'est dans le livre des Actes des Apôtres que nous allons lire un passage que l'on trouve au chapitre 12. Ce sont les 17 premiers versets du chapitre 12 du livre des Actes des Apôtres. Vers ce temps-là, le roi Hérode porta les mains sur quelques membres de l'Église pour les maltraiter et les faire mourir par l'épée. Ce fut le cas de Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit en outre arrêter Pierre. C'était pendant la fête des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la surveillance de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison, sans relâche, la prière montée de l'Église vers Dieu pour lui. Hérode allait le faire comparaître cette nuit-là. Pierre était lié de 2 chaînes, il dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici qu'un ange du Seigneur survint, et qu'une lumière brilla dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, puis il lui dit « Lève-toi promptement !» Les chaînes tombèrent de ses mains, et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et attache tes sandales !» Et il fit ainsi. L'ange lui dit « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi !» Pierre sortit et le suivit. Il ne savait pas que l'intervention de l'ange était vraie, mais il pensait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. Elle s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange le quitta. Revenu à lui, Pierre dit « Maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après réflexion, il se rendit à la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où un certain nombre de personnes étaient réunies et priaient. Quand il eut frappé à la porte d'entrée, une servante, du nom de Rhode, s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre, et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, Elle courut annoncer que Pierre était là, devant l'entrée. Ils lui dirent « Tu es folle !» Mais elle soutenait qu'il en était bien ainsi. Et ils dirent « C'est son ange !» Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. De la main, il leur dit « Signe de se taire !» leur raconta comment le Seigneur l'avait fait sortir de la prison et dit « Annoncez-le à Jacques et aux frères !» Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Frères et sœurs, avant de nous plonger dans ce texte, je vous propose de prendre votre recueil de chants, louanges et prières au cantique 232. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Levons-nous pour chanter l'Éternel. Puissions-nous maintenant faire silence en nous-mêmes pour nous mettre à l'écoute d'une autre voix que la nôtre. Puissions-nous maintenant nous mettre à l'écoute des bruissements de la vie portés à sa plénitude. Thank you. Chers frères et sœurs, Pierre a donc été mis au cachot. Pierre, c'est celui à qui a été confié les disciples par Jésus lui-même. Pierre est celui qui a reçu la responsabilité de faire paître le troupeau. Pierre, c'est le responsable, c'est l'autorité sommitale de la communauté chrétienne, c'est le président du conseil presbytéral qui, quelque temps après son élection, se retrouve pieds et mains liés sur la surveillance rapprochée de 16 soldats. Le compte est bon. Évidemment, toute ressemblance avec notre vie locale serait purement fortuite. Le rédacteur de l'évangile de Luc et des Actes des Apôtres n'avait pas en tête ce qui nous arriverait ce matin. En revanche, si nous ne faisons pas une lecture allégorique qui cherche à tout prix à repérer une personne ou une chose derrière tel personnage de cette histoire, ce passage du livre des Actes des Apôtres a des choses à nous dire sur la condition du conseil presbytéral qui assume collégialement, Bertrand de Cazeneuve l'a rappelé, la figure de Pierre, non seulement selon le principe du sacerdoce universel, mais selon la constitution de notre Église, le texte cadre de l'Église protestante unie de France, et selon les statuts de notre association cultuelle, qui confie au conseil presbytéral la responsabilité de l'Église entre deux assemblées générales. Et j'aimerais ce matin, alors que vous venez d'être reconnu liturgiquement dans votre ministère, reprendre cette histoire biblique pour vous faire entendre autre chose que ce que les textes administratifs vous enseignent de ce ministère. Cet enseignement tient en un seul mot, le plus beau peut-être après celui de grâce, liberté. Le mot le plus précieux, peut-être aussi le plus fragile. Oui, frères et sœurs, au moment où vous ressentez probablement votre responsabilité comme une charge portée à plusieurs, mais une charge tout de même, et je pense tout particulièrement à celui qui a accepté la fonction de président, je veux vous faire entendre que votre ministère est celui de la liberté, que les 4 années qui s'ouvrent devant vous peuvent être marquées de ce sceau magnifique de la liberté. Alors que vous voilà coincé dans la geôle des conseillers presbytéraux, le bien mal nommé parquet à huîtres, prenez acte 12 comme un viatique lorsque vous vous sentirez acculé à une posture. La première des libertés est relative à la question de la posture. Le récit de la libération de Pierre indique que ses chaînes, en vérité, ne le retenaient pas, que la porte n'était pas suffisamment verrouillée pour l'empêcher de passer, que les escouades n'étaient pas un obstacle à sa sortie. Et pourtant, Pierre était prostré dans sa cellule comme un bon prisonnier. Et bien voilà qui nous dit ce que peut être un bon conseiller, quelqu'un qui justement n'est pas prostré dans sa fonction, celui qui n'est pas confiné à une posture. Je veux dire par là que le véritable danger pour un conseil presbytéral, c'est de se contenter de faire ce qu'il pense que les paroissiens attendent qu'il fasse. Et ça, c'est perverse. La question n'est pas de savoir ce que doit faire le conseil presbytéral de l'oratoire. La question est de savoir ce que vous avez à faire pour cette communauté. Je veux dire par là qu'il ne s'agit pas de se conformer à l'idée qu'on se fait d'un conseil presbytéral et plus précisément d'un conseil presbytéral à l'oratoire du Louvre, mais de se libérer des stéréotypes, des images d'Épinal, souvent des fantasmes. Individuellement, par exemple, il ne s'agit pas de se demander quel doit être le choix, la décision d'un conseil presbytéral de l'oratoire du Louvre. Il s'agit de se demander ce qui est bien, là et maintenant. Parce que vouloir se conformer à une sorte de modèle reviendrait à conditionner vos décisions alors que la conduite de l'Église de Jésus-Christ implique un caractère inconditionnel. Et c'est cela la qualité de la grâce. La grâce est sans condition. Agir en fonction d'autres impératifs que le bien absolu, le bien inconditionnel, des personnes qui vous sont confiées. Ce serait, dans une certaine mesure, faire valoir d'autres motifs que ceux qui animent les disciples de Jésus-Christ. Se libérer des postures, c'est se rendre disponible aux défis qui se présentent aujourd'hui et apporter une réponse personnelle, la seule qui vaille. C'est vous, individuellement, qui avez été élu. C'est à vous, individuellement, que l'on a confié ce ministère collégial. Ce n'est pas à d'autres. C'est vous qui avez ce charisme particulier. Et c'est parce que nous comptons sur vos talents propres que nous avons fait appel à vous. Alors, vous n'avez pas à vous demander ce qu'il faut dire ou ce qu'il faut penser en tant que conseiller presbytéral de l'Oratoire du Louvre. Vous n'avez même pas à vous demander ce qu'il faut faire ou penser en tant que protestant libéral, ce qui serait une autre posture tout aussi contestable, une sorte de nouvelle orthodoxie. C'est justement parce que vous pouvez ne pas être enfermé dans une posture, c'est justement parce que vous ne serez pas prévisible et donc que vous ne serez pas déterminé à l'avance par quelque idéologie ou quelque système de fidélité, que vous ferez de ce lieu un lieu où la liberté est une réalité, et non uniquement un créneau à occuper, une posture disponible. La seule manière de pouvoir promouvoir la liberté, c'est d'être libre. Libre à l'égard des postures, libre d'agir par grâce seul. Il y a certainement un poids encore plus lourd que la posture, un poids qui peut entraver votre ministère, c'est l'histoire de l'Oratoire du Louvre. Pourtant, l'histoire de l'Oratoire du Louvre ne devrait pas être un poids sur vos épaules. De fait, il s'est fait de grandes choses par le passé, des choses parfois extraordinaires, qui provoquent l'admiration. Mais ce qui a été fait et bien fait n'a pas à être répété, encore moins reproduit. Ceux qui vous ont précédé ont répondu librement aux défis de leur présent, sans plus. Ils n'ont pas cherché à faire histoire. Ils n'ont pas cherché à faire inscrire leur nom dans les pierres de cet édifice. Ils n'ont pas cherché d'autre gloire que celle de l'Éternel. Et c'est par cet esprit libre, cet esprit de libre service, qu'ils ont accompli ces grandes et belles choses que vous recevez comme héritage, à commencer par l'édification de cette communauté vivante qui est là aujourd'hui. Ceux qui nous ont précédés n'ont pas fait autre chose que Pierre, interprétant les signes des temps, ce qui pourrait être la métaphore de l'ange, interprétant ces signes, voyant les enjeux qui se présentaient à eux, ils se sont levés promptement, ils se sont chaussés, ils ont mis leur ceinture et sont allés au-devant de leurs responsabilités, comme l'avaient fait avant Pierre les Hébreux eux-mêmes. Le récit de l'Exode au chapitre 12 ne dit pas autre chose. Promptement, ils mettent leur ceinture, ils chaussent leurs sandales et ils y vont. C'est Pâques. L'histoire de l'Oratoire du Louvre ne devrait pas être un poids, mais un capital. Un capital dans lequel il est possible de puiser, notamment lorsque la mission devient difficile et que nous avons besoin de retrouver plus encore de l'espérance. Cette histoire ne vous surplombe pas de manière menaçante, voyez-vous. Elle est votre bien propre. Elle est une sorte d'évangile qui vous affirme que vous pouvez soulever des montagnes. De plus, avec un regard assez objectif, à vrai dire, l'histoire de l'oratoire ne devrait pas être un poids dans la mesure où la santé de cette Église, aujourd'hui, aurait de quoi rendre admiratifs celles et ceux qui vous ont précédés. Pourquoi ne pas dire, parce que c'est objectif, que la santé financière de l'oratoire a rarement été aussi bonne, ce qui n'est qu'une traduction de la véritable vitalité de cette Église, ses membres. Être libre à l'égard de l'histoire est la condition essentielle pour ne pas se condamner à reproduire ce qui a été accompli autrefois, alors que cela n'a peut-être plus aucun intérêt aujourd'hui. Le principe même de la réforme, un processus jamais achevé, est ce qui nous prémunit des répétitions inutiles et ce qui nous garde vigilants à l'égard du présent, la seule chose qui vaille vraiment. Je parlais de la vitalité des membres. Je parlais de la véritable vitalité de l'Église faite de ces pierres vivantes. Eh bien, cela implique une autre libération, peut-être la plus décisive et la plus importante. La libération du cléricalisme. Ce cléricalisme qui pourrait renvoyer les hommes et les femmes libres à d'autres geôles, à l'état d'être soumis. Lorsque la liberté a été pensée et transcrite dans des modes de fonctionnement, ce qui a pris le nom de libéralisme, le fondement en était la reconnaissance de la valeur des individus, qui ne devrait jamais être masquée par la valeur de quelques-uns. Dans la situation de Pierre, nous voyons que la communauté est agissante dès son arrestation. Sans relâche, la prière montée vers Dieu pour Pierre. Et ces prières n'étaient certainement pas des jérémiades, ni ces prières que les catéchumènes eux-mêmes ne feraient pas, ces prières qui ordonnent à Dieu de faire ce qu'il ignorerait ou qu'il n'accepterait de faire qu'à la condition qu'on l'implore. La prière de la communauté, c'est cet ardent désir de vie qui s'exprime peu à peu dans des phrases, dans des projets, dans des actions qui nous mettent en route vers la destination voulue. La communauté est une communauté libérée de la mainmise des clercs. Ce n'est pas les pasteurs qui prient à la place de la communauté, c'est la communauté qui prend son destin en main et qui y va. C'est une communauté dont la parole est libérée et qui est donc en mesure de prendre ses responsabilités. Elle n'attend pas de savoir ce que le prédicateur pense de tel ou tel sujet pour savoir ce qu'elle-même doit en penser. Ce n'est pas une communauté docile qui n'aurait pas d'autre degré de liberté que d'obéir à ce qui lui est prescrit. Le protestantisme peut se targuer d'avoir mis en marge des générations d'individus qui ne se laissaient pas impressionner par le star system, par ces prédicateurs enthousiasmants, par ces prédicateurs tellement exceptionnels, ouvrez bien vos oreilles, mesdames, que pendant l'offrande, ici même, à l'oratoire, les paroissiennes détachaient leurs colliers de perles et les mettaient dans les aumônières, après quoi les maris venaient les racheter dans la sacristie. Notre protestantisme n'a jamais misé sur quelques-uns, mais a toujours fait en sorte que se lève une nuée de témoins. Le protestantisme s'est toujours efforcé de donner la parole à chacun, pour que l'Église ne soit pas seulement autour de la chaire du pasteur, ce qui serait bien modeste. Nous devons avoir une ambition plus large. Se libérer du cléricalisme, c'est permettre à l'Évangile de pouvoir irriguer l'ensemble de la société, qui est une nécessité absolue de nos jours. Cela l'était auparavant, cela l'est absolument aujourd'hui. Il ne s'agit pas de christianiser la société française, il s'agit de l'évangéliser. Il ne s'agit pas de faire en sorte que tous les Français adhèrent à une église, de préférence la nôtre, mais que tous les Français puissent vivre effectivement selon la qualité de vie promue par l'Évangile. Et c'est en étant porteur de l'Évangile là où nous vivons, là où nous travaillons, là où nous nous divertissons, là où nous étudions, que nous pouvons faire obstacle à tout ce qui ronge notre société. L'Évangile, c'est ce qui nous donne le courage d'être soi, en contexte de corruption, en contexte de violence, en contexte d'abus de bien social, en contexte de négligence, en contexte de refus de l'autre, en contexte de fascisme, et de ne pas céder à ses périls, voire d'y opposer des paroles et des attitudes qui le neutraliseront. D'un point de vue tout simplement pragmatique, les pasteurs ne peuvent pas être partout. Alors considérez qu'ils ne sont nulle part. Considérez que ce sont des serviteurs inutiles. Considérez qu'ils font comme l'ange, qui sort Pierre de sa torpeur, et qui ensuite s'en va dans un autre lieu. Et pour finir, je vous le rappelle, tout cela tient en un mot, liberté. Si vous voulez accomplir votre ministère, c'est-à-dire être véritablement au service de l'Église, de l'Évangile, alors soyez serviteurs de la liberté. et donc soyez vous-même libre. Amen. Pour appuyer ce contexte de Pâques, cette dynamique de libération, chantons le cantique 150, évidemment les strophes 1, 2 et 3.
Resuscité,
Prenons place, partageons les informations de notre agenda. À l'issue du culte, un verre fraternel sera à votre disposition dans la grande sacristie. Les éclaireuses du clan des Panthères vendront des gâteaux également à la sortie du temple. Donc faites-leur bon accueil. Je vous propose de laisser vos psaumes et cantiques au bout des rangées, de façon à ce que la sortie soit plus fluide. Donc, dans notre agenda, demain, toute la journée, à partir de 10h30 à la faculté de théologie protestante boulevard Arago, une journée d'hommage au professeur Raphaël Picon, qui commencera donc à 10h30 et s'achèvera dans la soirée par une séance filmée. À midi, pour ce qui concerne le groupe protestant des artistes, nous nous réunirons en salle Verne avec le pasteur Marianne Guéroux qui nous présentera la question de clown à l'hôpital. Mardi, à 14h30, l'étude biblique consacrée aux psaumes. Cette fois, ce sera sur le psaume 23, c'est à 14h30. Le soir, à 19h30, les étudiants et jeunes actifs se retrouveront avec Marjolaine. Ce sera l'occasion de pouvoir discuter de ce projet de déclaration de foi de notre Église. À 20h aura lieu la dernière séance de notre initiation théologique. Mercredi à 20h, le groupe biblique œcuménique se réunira à Saint-Eustache sur l'Évangile selon Jean, Jean chapitre 6 et chapitre 15, Sauveur du monde. Jeudi 14, c'est la répétition qui a sa chorale. Dès 19h30, le chœur est ouvert à celles et ceux qui voudraient préparer les cantiques de la semaine suivante. Et la répétition de la chorale proprement dite commencera à 21h. Samedi à 10h, hébreu biblique. À 10h, répétition de la chorale. Et le soir, à 18h, au temple, un concert spirituel, une cantate de Johann Sebastian Bach. Dimanche prochain, dimanche 17, c'est Gilles Castelnau qui présidera notre culte. Il y a parmi nous beaucoup d'adultes de plus de 50 ans, donc messieurs, n'hésitez pas à défaire vos Jägerlekultre pour l'offrande. Quant aux autres, eh bien, c'est le moment de donner à l'Église les moyens dont elle a besoin pour assurer l'ensemble de ses missions. Nous nous unissons dans la prière. Éternel notre Dieu, tu es le Dieu des choses impossibles. C'est pourquoi nous venons vers toi. Dieu de Moïse, on nous a dit que tu avais su ouvrir la mer infranchissable pour ton peuple en marche. C'est impossible, Seigneur. Mais puisqu'il en a été ainsi, viens aujourd'hui encore rendre possible l'impossible. Devant nous aussi, il y a la mer infranchissable. Il y a les escouades, les portes et les fers, celles de nos peurs, celles de nos mauvaises volontés, des ignorances de toutes sortes, celles de l'inertie en nous qui n'ose ni croire, ni changer quoi que ce soit. Alors nous t'en prions, Dieu des choses impossibles, viens ouvrir la lassitude ou la résignation où parfois nous nous épuisons. Et conduis-nous enfin vers une terre où coule le lait et le miel, pour tous et pour chacun. C'est impossible, Seigneur, et c'est pourquoi nous venons vers toi. Nous venons vers toi avec les mots que Jésus nous a offerts, pour que nous puissions exprimer pleinement notre désir et faire monter cette prière universelle. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, le Dieu de l'espérance nous comble de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit. Amen.